Un soir, ayant été toute la journée plus agacé, plus nerveux que jamais, il sortit. Cela lui arrivait quelquefois de faire de longues marches après le dîner, seul. Il gagnait les hauteurs où l'air est plus vif et plus loin à l'horizon, s'enfonçait dans la campagne, rentrait tard, sa soutane crottée et les membres brisés de fatigue délicieuse. Et encore tout embaumé de nuit, il s'étendait sur son lit, à demi déshabillé, jouissant immensément à se sentir plus calme, apaisé, meilleur. Ces nocturnes escapades avaient d'abord été jugées imprudentes, puis inconvenantes pour un prêtre qui doit être retiré chez lui au dernier coup d'Angélus. On en parlait avec des airs entendus et des mines peu bienveillantes. On ne pouvait admettre que ce fût pour le plaisir seul de contempler les champs sous la lune, que l'abbé vagabondait ainsi aux heures tranquilles où tout le monde se repose. Cela ressemblait fort à une criminelle aventure, à un rendez-vous défendu. Il y avait certainement quelque part une femme qui l'attendait sous la protection obscène de l'ombre, et si cette femme pouvait être la femme d'un impie, d'un républicain, quelle joie de le surprendre avec elle et d'ajouter au péché d'impureté étalé et flagrant le caractère d'une trahison, d'un pacte conclu avec les ennemis de l'Église. Dans l'espérance d'un scandale qui eût débarrassé le diocèse de son tyran, on l'avait suivi, observé, espionné, mais on n'avait rien découvert, aucune trace de femme et nulle part la moindre indication d'une intrigue. L'abbé marchait, se hâtant, il est vrai, comme s'il avait un but. Il marchait fiévreusement, furieusement, et c'était tout. Si l'herbe était foulée là où il avait passé, ce n'était que de la largeur de ses semelles ferrées qui résonnaient sur la terre et tiraient des étincelles à la pointe heurtée des cailloux. Bon, on fut fort dépité de cette nouvelle déconvenue, et il fallut bien s'habituer à considérer les sorties de l'abbé comme une des mille inexplicables fantaisies de son existence. Ce soir-là, donc, il prit comme de coutume par le haut de la ville, et à 2 kilomètres de là, il laissa la grande route, s'engagea dans une sente qui monte à travers champs et friches et conduit à la forêt de Blanche-Lande, qui, au loin, devant lui, tassait ses sombres massifs dans le soleil couchant. La nuit venait, odoriférante et superbe, encore toute illuminée de jours roses, sur les coteaux, sur les chemins, sur les écorchures de la terre, tandis que l'ombre, vêtue de brumes roses aussi, et lentement déployée, s'allongeait au creux des vallons. Ébloui, charmé, il marchait vite, aspirait avec délice la fraîcheur qui s'épandait dans l'air, et il regardait le ciel labouré d'or, éclaboussé de feu à l'horizon, et au-dessus de sa tête le ciel, encore uni et tranquille, d'un bleu d'acier, d'un bleu profond, où les étoiles allaient tout à l'heure paraître. Soudain, il se heurta à un obstacle qui barrait la sente dans toute sa largeur. Ses yeux et l'esprit perdus dans l'espace, il ne l'avait pas aperçu. C'était une brouette chargée de trèfles fraîchement coupés. Une paysanne était assise sur l'un des bras de la brouette et s'essuyait le front où la sueur coulait. Au sommet du tas d'herbes, une faucille luisait comme un croissant de lune tombé du firmament. La paysanne, d'abord, sembla s'effrayer à la subite vision de ce fantôme, si noir, si grand, qu'assombrissait et que grandissait encore le crépuscule. Mais ayant ensuite reconnu un prêtre, elle se rassura. D'ailleurs, l'abbé doucement lui dit : « Oh, n'ayez peur, petite, je ne suis point le diable. » et s'appuyant contre le tas d'herbes, il examina la paysanne. C'était une belle fille, jeune et saine, aux membres solides, aux vigoureuses hanches, et l'indécise lumière qui l'enveloppait toute donnait du mystère à ses yeux voilés, à son visage bruni, au milieu duquel des dents très blanches éclataient. Un petit bonnet d'indienne bleue, d'où s'échappaient des mèches de cheveux noirs collés sur son front, lui serrait la tête. Une partie de ses jambes et ses pieds sortaient nus d'un court jupon de bure, dont les plis lourds accentuaient la cambrure puissante des flancs. Sa poitrine n'était protégée que par une chemise de grossière toile, flottante, mal coulissée, qui laissait voir par un large bâillement la rose nudité d'un buste souple et fort et deux seins énormes, plus splendides que ceux des déesses de marbre. Et de cette fille, une odeur montait, âcre et grisante, une odeur de fauve, une odeur de musc et d'étable, de fleurs sauvages et de chair battue par le travail et par le soleil. L'abbé en fut en quelque sorte étourdi. À respirer ce brutal parfum, il sentit un désir lui mordre le cœur violemment. Du feu s'alluma dans les veines. Il frissonna. Et les narines écartées, comme font les étalons qui flairent dans le vent des odeurs de femelles, il poussa un soupir qui ressemblait à un hennissement. La prendre, la renverser dans la sente, la coucher sur l'herbe qu'elle venait de cueillir, il y pensa. Pétrir avidement cette chair nue et vautrer sur elle, l'obliger à se débattre sous l'étreinte de ses bras, à crier sous la morsure de sa bouche, il l'aurait voulu. Mais, si ardente, si impérieuse que fut la tentation, il n'osa point. Une inquiétude vague, mêlée à une inconsciente pudeur, le retenait. Et puis il ne savait que dire à cette fille, il ne savait comment l'aborder. Il cherchait une parole, un geste, un moyen, et il ne les trouvait pas. Ses doigts impatients se crispaient dans l'herbe. Il en arrachait les poignets, que par un mouvement machinal, il portait à sa bouche et qu'il mordillait ensuite bestialement. Enfin, pour rompre un trop long silence qui le gênait, pour s'enhardir un peu, il demanda d'une voix tremblante, angoissée, « Comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Mathurine, » répondit la paysanne après un moment d'hésitation. D'un regard farouche, l'abbé fouilla la campagne autour de lui. L'ombre s'épaississait, les champs étaient déserts, aucune silhouette d'homme ou de bête sur le ciel n'apparaissait. Cela le rassura. « Et où demeures-tu ? » reprit-il d'un ton plus ferme. La paysanne désigna, à 300 mètres de là, sur la gauche, une masse d'ombre au milieu de laquelle des maisons se devinaient vaguement parmi les arbres. « Là-bas » fit-elle. L'abbé tendit l'oreille et pas un bruit n'arrivait jusqu'à eux. Pas un, sinon le frémissement lent et continu de la nuit tombante. Par la pensée, il dévêtit Mathurine. Cela représenta impudique et toute nue. Et déjà il vit, soulevant ses voiles grossiers, l'ardente fleur de sa beauté sexuelle s'offrir lascive et freinée aux curiosités, aux emportements de sa luxure. Son cerveau s'exalta. Et tes amoureux ? Tu as des amoureux, dis. Qu'est-ce qu'ils te font ? Tu couches avec ton père, avec ton frère, dis. Qu'est-ce qu'ils te font ? As-tu jamais rêvé aux caresses d'un bouc, d'un taureau ? Je serai ce bouc, je serai ce taureau. Veux-tu que je m'asseye près de toi et que je te confesse? Nous insulterons le bon Dieu, veux-tu? Réponds-moi. La fille ne répondit pas. Elle ne comprenait rien à ce langage de fou, à ces mots qui désolaient le silence. Mais effrayée par la mimique désordonnée du prêtre, elle voulut se lever. « Non ! Commanda-t-il, non ! Ne te lève pas, ne t'en va pas. Reste, tu es belle. L'odeur de ta peau me grise, et il fait nuit, personne ne peut nous entendre. Pourquoi as-tu peur ? Réponds-moi. » La fille ne répondit pas. Il pensa, elle va résister, appeler peut-être. Oh, je lui donnerai 20 sous, elle se taira. Oui, mais se taira-t-elle? Il tâta la poche de sa soutane, s'assura qu'il n'avait pas oublié son porte-monnaie. Et s'il le faut, se promit-il encore, je lui donnerai davantage. Oh, je lui donnerai tout. Ou bien je lui enfoncerai du foin dans la bouche. Viens ici, dit-il. La fille ne bougea pas. « Viens donc ici !» répéta l'abbé. Sa voix haletait et devenait rauque. Une étrange fureur de passion lui poussait les bras en avant, tordait ses mains, précipitait toute sa chair vers il ne savait quel crime absurde et fatal. La faucille luisait sur l'herbe près de lui. Il eut l'idée de s'en saisir, de frapper. Ce qui lui restait de raison s'en allait dans le vertige. Il n'eût pu dire à quelle incoercible folie il obéissait, lequel était en lui du meurtre ou de l'amour. Quelques nuées de formes bizarres et changeantes flottaient au ciel, rouges des suprêmes lueurs du couchant, et il lui sembla que c'étaient des sexes monstrueux qui se cherchaient, s'accouplaient, se déchiraient dans du sang. Pour la troisième fois, il répéta les lèvres sifflantes de menaces. « Mais viens donc ici !» La fille ne bougea pas. Stupide, les yeux hébétés, elle considérait cet homme grand, ce prêtre hideux, ce diable tout noir devant elle. Et brusquement, comme une bête qui fonce sur une proie, il se rua sur elle. Au risque de l'étrangler d'un tour de bras, il lui serra le col, et de la main restée libre, il lui empoigna les seins qu'il labourait, qu'il tenaillait, qu'il écrasait avec rage dans une atroce et sauvage étreinte. D'un moment, il sentit remuer sous ses doigts un scapulaire, des croix, des médailles bénites, que la malheureuse portait sur la peau, pendue au bout d'une chaînette d'acier, et il éprouva une joie horrible, une joie sacrilège, à les tordre, à les briser, à les enfoncer sur cette chair de femme, à les mêler aux caresses profanatrices dont il la meurtrissait. En même temps, il éructait des mots orduriers, épouvantables, des mots sans suite, des blasphèmes, coupés de hoquets et de halètements. « Ne dis rien, viens ici, plus près, plus nu, je te paierai, oui, je te... Écoute, tais-toi, sur l'herbe, là, te tuer sur l'herbe, t'étouffer, tais-toi. » Mais la fille avait pu se relever. D'un coup de rein, elle se dégagea. D'un coup de poing, elle repoussa l'abbé, qui fit plusieurs pas en arrière et, chancelant, faillit tomber à la renverse. « Espèce de grand brutal » fit-elle simplement, en rajustant sa chemise entièrement découlissée et en renouant sur ses hanches ses jupons arrachés. « Quoi qui vous prend donc ? Ah ben, voilà, salaud de curé !» Elle se réattela à la brouette et lentement reprit sa route, se retournant de temps en temps pour voir si le prêtre la suivait. Celui-ci demeurait immobile et comme pétrifié. La soutane déboutonnée, la tête nue, les bras pendant au long du corps, il n'avait même pas pensé à ramasser son chapeau qui, lors de la courte lutte, avait roulé à terre. Il regardait, sans la voir, la silhouette de la paysanne qui s'abaissa, se noya, se confondit tout avec le sombre du terrain, et il écoutait, sans l'entendre, la brouette qui dansa sur les ressorts de la sente et fit en s'éloignant un bruit lointain de tambour. Et ce fut le silence tout autour de lui, et ce fut la nuit. Une inquiétante nuit, profonde et sans lune, une nuit qui entrait dans son âme et qui renvoyait sur la pâle lumière du ciel occidental, avec le mystère grandissant de ses ténèbres à elle, les grimaçantes et vengeresses images de ses remords à lui et de ses terreurs. En proie à une immense horreur de soi-même, l'abbé joignit les mains comme pour une prière, se laissa tomber sur le sol dans un grand geste d'accablement, et longtemps, longtemps, il pleura. Pendant plus d'une heure, il resta là, sans bouger, sans penser, la tête lourde, les membres rompus, les idées en déroute, si complètement anéanti qu'il ne se rappelait pas avec netteté ce qui s'était passé. De ce moment de folie, de cette minute de crime, il ne gardait que la sensation d'un vague et pénible dégoût, d'un écrasement de tout son être physique et moral. Il était ainsi que dans un rêve de fièvre, où les choses se succèdent incohérentes, ironiques et douloureuses. Malgré lui, l'impure obsession de la femme revenait, s'associait à sa honte, et avec un involontaire tressaillement de ses muscles, avec une vibration suprême de ses moelles, il la retrouvait en lui, autour de lui, jusque dans l'opacité de l'ombre, jusque dans le symbolisme errant du ciel, où les nuages évoquaient d'impossibles nudités, d'impossibles enlacements, une multitude de figures onaniques et tordues, semblables aux gravures démesurément agrandies d'un livre obscène qu'il avait eu jadis au collège. Et au-dessous de ce ciel obscène, prolué, la forêt, dressant ses masses confuses, énormes et lointaines, amplifiant ses terrasses, ses colonnades, ses escaliers, ses temples, lui faisait l'effet de quelque architecture formidable, de quelque noir Sodome bâti en l'honneur de la débauche éternelle et triomphale. Une torpeur l'envahissait. Il se sentait un besoin irrésistible de sommeil, éprouvait une sorte de narcotique volupté à se laisser glisser dans le vague, dans l'oubli, dans le néant. Il ne tenta pas de s'arracher à cet engourdissement qu'il préférait au réveil brutal de sa raison. Ah, s'il avait pu descendre toujours au fond de ce noir, ne jamais remonter. Et, s'allongeant sur la terre humide de rosée, comme un vagabond, il s'endormit profondément. Quand l'abbé rentra dans la ville, il devait être très tard. Tout dormait. Aucune lumière ne luisait entre les volets clos des maisons. Et les réverbères, au haut de leur morne potence, étaient depuis longtemps éteints. Près d'une auberge, sous une voiture de marchand forain, un chien grogna. Quoiqu'il eût les membres raidis par l'humidité, il pressa le pas, gagna la petite porte dérobée du jardin, dont il gardait toujours la clé sur lui, et vite il monta à sa chambre. Il avait hâte de se trouver entre des murs protecteurs, environné d'objets familiers, loin de cet effrayant ciel et de ces horizons maudits. Et puis ses jambes tremblaient, la force abandonnait son corps. Alors il s'assit sur le lit, en poussant un soupir de délivrance. Mais l'obscurité bientôt lui parut terrible, peuplée des mêmes images et des mêmes fantômes que là-bas. Ayant allumé la lampe, il eut l'idée de se considérer dans une glace, et alors il fut épouvanté de ce qu'elle lui renvoya. Un visage bouleversé, des brins d'herbe dans les cheveux, une soutane boueuse poissée de saleté puante. En vain, il chercha son rabat, qu'il avait sans doute perdu dans la sente, en se colletant avec la paysanne. « Abjection de la chair ! » s'écria-t-il, « indomptable pourriture ! Cochon, cochon, cochon !» Il eut voulu se battre, se supplicier, rêva de cilices, de tourments, de lanières, qui font voler au sifflement de leurs pointes d'acier le sang des saints et la chair des martyrs. Il parlait tout haut. « Mais quelle ordure est en moi ! Ma mère m'a-t-elle donc allaité avec des excréments ?» Se prenant à la gorge, il hurlait. « Je n'aurai donc jamais raison de toi, carcasse ignoble !» Ensuite, il se frappait la poitrine à grands coups de poing. « Je ne te crèverai donc point, cœur de boue, outre l'immondice !» Il revenait à son rabat égaré. « Et ton rabat misérable ! Quelqu'un demain le trouvera et dira, c'est là qu'il s'est vautré. Et tant mieux qu'on le dise, qu'on aille courant dans les rues et clamant, il s'est vautré là. Au moins ma honte sera complète, et l'on me poursuivra peut-être à coups de bâton, comme l'on fait pour les chiens accouplés. » Il avait un tel écœurement de sa vie passée, de sa vie présente, un tel effroi de sa vie à venir, qu'il ouvrit la fenêtre, se pencha sur la rampe de la terrasse, mesura le vide au-dessous de lui. « Non, non, » fit-il en reculant, « il y a peut-être un Dieu. » Et malgré son exaltation, il ne put s'empêcher de sourire à cette idée. Le suicide d'un prêtre, en qui lui parut bizarre et comique. Cela détendit un peu ses nerfs. Plus calme, il se laissa entraîner vers d'autres pensées. Dans leur déroulement rapide, il se promettait de dures expiations, entreprenait des pèlerinages extravagants et nouveaux, les pieds nus, la corde au cou, se dévouait à d'absurdes apostolats. Oui, il irait à travers le monde, évangélisant les adultères et les prostituées, prêchant la continence aux débauchés. Mais auparavant, il voulait demander pardon à sa mère, au bon curé Sortet, au grand vicaire, à l'archiprêtre, à tous ceux qu'il avait persécutés. Puis, au bout d'un chemin planté de calvaire, semé de couronnes d'épines et de ronces, il entrevoyait, comme un refuge de lumière, la trappe, la paix de ces longs couloirs silencieux, les travaux champêtres, les courts et paisibles sommeils sur les planches nues, les interminables nuits de prière, et ce petit cimetière sans arbres, avec ses croix blanches, si fraternellement rapprochées l'une de l'autre, et ce grand étang où les roseaux chantent, et où il avait autrefois, gamin maraudeur, pêché des gardons à la barbe des moines. À ses projets, à ses visions, à ses souvenirs, qui lui coulaient dans l'âme une douceur, l'abbé s'attendrissait, et s'attendrissant, il se trouvait le plus malheureux des hommes. Ce qui le désolait surtout, c'était d'être seul en la détresse infinie de son cœur. Il eût souhaité que quelqu'un fût là, près de lui, quelqu'un comme François d'Assise, et que ce quelqu'un lui parlât doucement, tendrement, d'une voix de saint, avec des mots sublimes et consolants qui ouvrent le paradis. Il songea à son évêque, et son évêque lui sembla une sorte de providence, un être merveilleux dont les mains sont pleines de bénédictions. Il fut ému en évoquant son visage triste et son dos de martyr. Mais pourquoi n'irait-il pas se jeter à ses pieds? Il lui avouerait tout. Il lui dirait toute sa vie, avec des accents déchirants de repentir qui le feraient pleurer. Et l'évêque lui parlerait, le bercerait, l'endormirait. Dans ces moments, l'abbé Jules retrouvait la naïveté, la confiance, la promptitude de résolution d'un petit enfant. Il croyait à la bonté, à la charité universelle. Il prit la lampe, plus léger, descendit l'escalier, radieux, frappa à la porte de l'évêque, enthousiaste. Celui-ci dormait sans doute et n'avait rien entendu. Il ne répondit pas. Alors l'abbé ouvrit la porte brutalement, en faisant grincer la serrure, et il pénétra dans la chambre. « Qui est là ?» cria l'évêque. Réveillé en sursaut, ébloui par la brusque invasion de la lumière, il s'était dressé à demi, hors des draps, la bouche béante, le crâne ébouriffé de mèches grises, qui dardaient leurs pointes en tous sens. Un effarement entre ses paupières bouffies de sommeil qui clignotaient. Et de ses bras tendus en arrière contre le bois du lit, il arc-boutait son corps mal assuré et tremblant. « Mais qui est là ?» répéta l'évêque. L'abbé traversa la pièce, posa la lampe sur une table et vint se jeter au pied du lit. Ne craignez rien, monseigneur, dit-il d'une voix humble. C'est moi, moi, votre fils indigne. Oh, si j'ose franchir cette porte et troubler votre sommeil, c'est que je souffre trop. C'est qu'il faut que je vous parle, que je vous dise tout, tout. Cela m'étouffe, je ne puis plus attendre, je ne puis plus. Le vieillard se frottait les yeux. Il considérait de coin, d'un air ahuri, cette chose noire agenouillée près de lui, qui rendait des sons et gesticulait. « Oh, c'est lui !» débita l'abbé très vite, arrachant ses mots. « Il n'y a qu'un instant, là-bas, j'ai rencontré une paysanne. Assise sur une brouette, elle se reposait. Mais alors, ce qui s'est passé en moi, je l'ignore. J'ai été fou. Je me suis rué sur elle. Quelque chose me grisait, me poussait. L'ai-je violé, l'ai-je tué? Je ne me rappelle plus. Ce que je voulais d'elle, je ne le niais pas. De la volupté, peut-être du sang. Oh, j'aurais eu un couteau, oui, je l'aurais frappé. Elle était jeune, vigoureuse, se débattait. Et j'ai souillé mes mains à l'impureté de sa chair. Je suis un grand pécheur, un criminel. Oh, je suis... Regardez mon visage, mes vêtements. Ne vous fais-je pas horreur? Regardez-moi. Comment ? Interrompit le prélat, qui n'avait pas écouté une seule parole de cet étrange récit. Comment c'est vous, mon cher abbé ? Oh, que vous m'avez fait peur ! Quand vous êtes entré, je rêvais, j'ai cru. Et alors, comment c'est vous? Ah, mais oui, mais quelle heure est-il donc? Je l'ignore, et pourquoi l'heure? Et qu'importe l'heure? À l'affamé qui demande du pain, au désespéré qui cherche une consolation, au mourant qui implore une prière, répond-on, quelle heure est-il? Y a-t-il donc une heure pour la souffrance humaine? Je suis cet affamé, ce désespéré, ce mourant, je viens à vous. Parlez-moi. La physionomie de l'évêque s'ahurissait de plus en plus. Le pauvre homme faisait des efforts prodigieux pour comprendre, et il ne comprenait pas. Surpris dans ce déshabillé intime et dans cette ridicule posture, il manquait vraiment de prestige, était même souverainement comique. Mais Jules ne songeait point à rire. Il joignait les mains. « Oh, parlez-moi, mon Seigneur !» L'évêque se frotta les yeux de nouveau, dodelina de la tête et lentement il bégaya. « Que je vous parle, mon cher abbé ?»« Oui, oui, que je vous parle, c'est cela. Mais sont-ce des choses raisonnables que vous me dites là ?» Êtes-vous bien sûr que je vous parle? Ben, je veux bien, mon enfant, mais quoi et pourquoi? La voix de Jules s'impatienta. Mais parlez-moi donc. Dites un mot qui me console, qui me relève, ou qui me châtie. Est-ce que je sais, moi, un mot comme Jésus en tiré du fond de sa divine pitié pour les malheureux et les pécheurs repentants? Comprenez-vous? Hein, comprenez-vous? « Comme Jésus !» répétait l'évêque dans un long bâillement. « Ah, comme Jésus, oui, oui !» Et il ajouta, « C'est guère le moment, il me semble. Demain, plutôt, demain matin, vous me rappellerez, vous me ferez penser. » L'abbé Jules s'était levé. Il fixa sur le vieillard un regard mauvais, eut un haussement d'épaules, et sans prononcer une parole, reprit la lampe et se dirigea vers la porte. Très raide, il ne répondit rien au prélat qui lui disait en se reculant dans les couvertures. C'est cela, demain, c'est entendu, n'est-ce pas? Demain matin, vous me rappellerez, vous me ferez penser, vous. Allez, dormez bien. Jules referma la porte avec colère. « Quelle brute » songeait-il, tandis qu'il remontait l'escalier. « Et c'est ça qui conduit des âmes, ça qui dort et qu'un cri de détresse ne réveille pas. Dire que nos grands saints étaient peut-être pareils à ça. Ah, je voudrais les voir, les Colette, les François d'Assise, les Vincent de Paul et les autres, et toute la céleste engeance. Peut-être qu'on le canonisera aussi, celui-là. Il aura sa statue dans des niches entre deux vases de fleurs en papier. Il fécondera les femmes stériles qui viendront à cierge à la main baiser son orteil de pierre. Et l'on établira des fêtes commémoratives en son honneur. Et l'on bâtira des cathédrales qui porteront son nom. Et il se pavanera dans le calendrier. Oh non, mais c'est comique. Aussi dans la vie, personne n'aime personne. Personne ne secourt personne. Personne ne comprend personne. Chacun est seul, tout seul, parmi les millions d'êtres qui l'entourent. Lorsqu'on demande à quelqu'un un peu de sa pitié, de sa charité, de son courage, il dort. On peut pleurer, se casser la tête contre les murs, mourir. Ils dorment tous. Et le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait au milieu de tous ces endormis? Est-ce qu'il ronfle lui aussi dans son nuage? Et répond à toutes les misérables qui tendent vers lui leurs suppliantes mains. « Oh, laissez-moi dormir, canaille, demain !» Au moment de se mettre au lit, tous ses projets, tous ses repentirs, tous ses remords s'en étaient allés. Il s'étonna de se retrouver la conscience calme, le cœur soulagé, presque gai même. Il s'amusa de la mine effarée de l'évêque et se sentit très fier de lui avoir fait peur. D'ailleurs, quel mal avait-il commis? N'était-il pas un homme, après tout? N'avait-il pas obéi à une impulsion naturelle de ses sens? Avec cela, les autres curés se privaient de ce divertissement. Témoin cette crapule d'archiprêtre qui lui finirait en cour d'assises quelques jours. Et ce grand vicaire qui, malgré ses façons puritaines, recevait chez lui un tas de vieilles dévotes hystériques. Et il ne parlait pas des autres, qui installaient des concubines dans leur presbytère sous le nom de nièces, de cousines, de servantes. Il avait désiré une femme, il avait voulu la prendre. Mais s'était-il adressé à l'ombre complice des confessionnaux, où le souffle des prêtres se mêle au souffle des pénitentes, où des lèvres rapprochées s'échappent des questions qui énervent et des aveux qui brûlent? Oh, il était vraiment trop bête, aussi, de toujours exagérer les choses, de les dénaturer, de s'emballer, de perdre la tête pour un oui, pour un non. Et Mathurine se représenta à lui, tel que lui était apparu d'abord dans le soleil couchant, avec ses membres robustes et son odeur puissante de jeune fauve. Non seulement il ne tenta pas cette fois d'écarter l'image revenue, mais il s'efforça au contraire de la retenir, de la fixer, de la compléter, de la rendre en quelque sorte tangible, d'y rechercher le trouble exquis et furieux, par quoi il avait été si étrangement secoué. Il esquissa un geste impudique et, faisant craquer le lit sous une violente pesée de son corps, il dit dans un ricanement « Toi, gredine, je te revincerai !»
Le lendemain, à l'heure habituelle, l'abbé Jules, un peu pâle, entra dans le cabinet de Monseigneur. Celui-ci lui remit le courrier et lui dit d'une voix très douce, hésitante et qui tremblait « Eh bien, je suis à vous, mon cher enfant. Que vouliez-vous me dire ?»« Moi ?» fit l'abbé d'un air surpris. « Rien, monseigneur. Mais si, vous vouliez me dire quelque chose quand vous êtes venu cette nuit dans ma chambre. » L'abbé regarda l'évêque fixement, effrontément. « Moi ? Je suis venu cette nuit dans votre chambre, moi ? Mais oui, voyons, vous ne vous souvenez pas, cette nuit. » L'abbé secoua la tête et d'un ton bref, « Je ne suis pas venu cette nuit dans votre chambre, vous avez rêvé. » L'hiver qui suivit n'amena pas de grands événements à l'évêché, et les mois passèrent, monotones et calmes, sans une seule secousse. Toute l'agitation de l'abbé semblait avoir disparu. Du moins, il se manifestait peu au dehors, négligeait son service, se désintéressait même des affaires du diocèse qu'il bâclait à la hâte comme un devoir ennuyeux. À l'exception des heures d'office et de repas, il restait presque toujours enfermé dans sa chambre, refusant obstinément de s'occuper des choses qui n'étaient pas dans ses attributions. L'évêque, qui redoutait extrêmement l'activité pleine d'imprévus de son secrétaire, redouta plus encore son inaction, car le poids de l'administration retombait sur lui et il s'en trouvait tout écrasé. De crainte d'irriter Jules et d'amener des scènes, il ne voulait point, dans les cas difficiles, recourir au grand vicaire. D'un autre côté, il ne pouvait seul se décider à prendre une résolution quelconque. Alors, il se lamentait, perdait la tête devant l'accumulation grandissante des dossiers, des lettres à écrire, ne recevait personne et ne faisait rien. « Je suis désarmé, absolument désarmé !» se répétait-il souvent pour essayer d'étouffer la voix intérieure qui montait du fond de sa conscience, troublée de reproches. Lui aussi, il se confina davantage dans sa bibliothèque et croyant échapper de la sorte aux embarras du présent, aux responsabilités de l'avenir, il se mit à retraduire Virgile en vers de 8 pieds, avec acharnement. Un instant, le palais épiscopal retrouva son aspect morne, son silence de maison abandonnée, silence interrompu vers le soir par des sonneries suraiguës, d'étranges et cacophoniques roulades d'instruments de cuivre qui tombaient sur la ville en averses de fausses notes et de couacs, précipitant pêle-mêle des refrains de chansonnettes et du plein chant, des airs militaires et des cantiques, des polkas sautillantes et de graves tédéums. C'était l'abbé qui jouait du cornet à piston pour se reposer des bizarres travaux auxquels il consacrait toutes ses journées. Car l'abbé s'était pris d'une passion inattendue. Les livres, passion exclusive et tyrannique qui mettait en lui l'obsession d'une manie et la fureur d'une rage. Il avait rêvé subitement de se monter une bibliothèque prodigieuse et comme personne n'en aurait jamais vu. D'un coup, il eût voulu posséder, depuis les énormes incunables jusqu'aux élégantes éditions modernes, tous les ouvrages, rares, curieux et inutiles, rangés par catégorie dans des salles hautes, sur des rayons indéfiniment superposés et reliés entre eux par des escaliers, des galeries à balustres, des échelles roulantes. Dès le matin, sa messe dite, il pointait nerveusement des catalogues, piochait les journaux de bibliophiles auxquels il s'était abonné, correspondait avec des libraires de Paris, dressait des listes interminables de volumes, établissait des budgets fantaisistes et toujours insuffisants. Et la bibliothèque n'avançait guère. Jusqu'alors, elle tenait tout en 3 petites malles qu'il ouvrait sans cesse et qu'il refermait avec un grondement d'impatience après avoir constaté la pauvreté de ses acquisitions. Mais que faire? Son traitement était maigre. Maigre aussi la pension mensuelle que lui servait sa mère. Il avait converti en espèces les menus objets personnels qu'il possédait, se privait des choses le plus nécessaires, refusait de renouveler ses soutanes trouées, mangeait de graisse, ses chapeaux pelés, ses souliers qui bâillaient comme des museaux de carpe. Hélas, ses ressources, ses économies totalisées ne parvenaient pas à faire de grosses sommes. Et puis, il s'endettait de plus en plus chaque jour, en achetant des livres à tempérament, en souscrivant à de nombreuses publications qui dévoraient à l'avance l'argent de ses mois. Ce qui l'irritait surtout, c'était de voir autour de lui des prêtres bourrés de riches cadeaux, gorgé d'argent par les dévotes de la ville. Il ne pouvait penser, sans de sauvages jalousies, au grand vicaire à qui les dames pieuses brodaient des étoles, des chapes, des coussins, des services de table, à qui délicatement, le jour de certains anniversaires, elle glissait de grasses offrandes pour des pauvres chimériques et des œuvres de vague bienfaisance. Lui seul n'avait jamais rien reçu, pas même une boîte d'allumettes, pas même 2 sous. Et sec comme un squelette et sale comme un mendiant, il assistait, la haine au cœur, au fleurissement de ses joues qui suaient la paresse et la gourmandise, à l'épanouissement de ses ventres heureux, voluptueusement tendus sous des soutanes chaudes et des douillettes neuves. Après avoir lassé la patience de sa mère, qu'il accablait de demandes répétées, sous prétexte que la vie étant très luxueuse à l'évêché, il fallait y tenir un haut rang. Après avoir tiré de l'évêque quelques menues sommes sous le couvert de charité discrète, il en était arrivé à s'accrocher à la possibilité d'expédients malhonnêtes, et il combinait des plans dans lesquels le romanesque s'alliait au vol et à la simonie. Il entrevoyait des héritages de vieilles femmes très riches, des amours mystiques et productives avec de très belles châtelaines. Le plus naturellement du monde, il songeait à vendre son influence et sa protection, mais à qui? à trafiquer des sacrements, à tenir boutique des choses saintes. Mais comment? Élargissant ses rêves, il travaillait à inventer des pèlerinages perfectionnés, à exhumer des saints miraculeux, à découvrir chez la Vierge des vertus inédites et sûrement exploitables. Mais tout cela a été fait depuis longtemps. La Vierge est tondue, archi-tondue, se disait-il en laissant retomber ses mains sur le bureau avec un geste découragé. Ses idées, qui lui paraissent simples d'abord au moment où elles naissaient, devenaient à la réflexion pleine de difficultés et d'une impraticable réalisation. Il y renonçait en se rejetant sur d'autres, plus compliquées encore, plus extravagantes et qui aboutissaient au même négatif résultat. C'est alors que le soir, dégoûté, irrité, il jouait rageusement du cornet à piston, comme il eût fendu du bois, comme il eût cherché querelle à quelqu'un dans la rue, afin de détendre ses nerfs et d'oublier une minute la tristesse de son âme. Un jour qu'il se trouvait seul dans le cabinet de l'évêque, il aperçut sur la cheminée quelques pièces d'or parmi quelques pièces d'argent. Instinctivement, sans qu'il eût une attention précise, il s'assura du regard que les portes étaient bien closes, qu'il était bien seul et que personne ne pouvait le voir. Puis, marchant sur la pointe du pied, il s'approcha de la cheminée. Jaunes et blanches, elles luisaient là, tout près, à portée de sa main, étalées pêle-mêle, en pièces qui viennent d'être retirées d'une poche négligemment. Les narines dilatées et les yeux brillants de convoitise, plusieurs fois il les compta, 11 louis d'or. Avec délicatesse, évitant de déranger les autres, il prit un louis. Et tandis qu'il l'enfouissait dans sa poche de sa soutane sous son mouchoir, il se sentit au bout des doigts un petit frisson et comme un léger chatouillement à la racine des cheveux. En même temps, son cœur battit plus vite, mais d'un mouvement régulier, agréable, qui lui donna l'impression d'une jouissance physique très douce. Il ne se demanda pas s'il commettait une bassesse, un acte honteux. Il ne se demanda rien. « Bon, ça lui fera un compte rond, » se dit-il simplement, en songeant à l'évêque. Et considérant de nouveau le tas d'or, qui ne paraissait pas diminué par ce larcin, il ajouta jovialement « Trop rond même !» Il en prit un second. Un troisième avait glissé, rendant sur le marbre un son clair de métal. L'abbé hésita, perplexe. Ne devait-il point se l'approprier aussi, celui-là? Il réfléchit que cela se verrait peut-être, et il le remit en place d'un air de regret. D'ailleurs, il se promit de revenir plus souvent dans ce cabinet, aux heures où il avait chance de n'y pouvoir rencontrer Monseigneur, et d'inspecter les meubles avec plus de soin que jadis. Certes, il n'espérait pas mettre jamais la main sur des millions, mais un louis par-ci, 2 louis par-là... Ça finirait tout de même par faire une somme respectable. Très calme, il s'allongea sur un fauteuil et se perdit dans de vagues et innocentes méditations. L'évêque rentré, Jules ne montra aucune gêne, s'entretint avec lui sur le ton de la plus libre, de la plus franche affection. Il fut charmant. Et cette affection n'avait rien de joué, elle était sincère et profonde. À 7 minutes, il éprouvait réellement pour le vieux prélat un respect filial, une reconnaissance tranquille, dégagée de tout remords, et comme, dans ces brusques sautes de la haine à la tendresse, il ne l'avait point encore éprouvé jusqu'ici. Son âme s'amollissait, se fondait à la chaleur des sentiments généreux et des généreuses pensées qui remuaient en lui délicieusement. Le vol le rendait meilleur. Il s'attarda, heureux d'être auprès de son évêque, de le combler de prévenances. Il sut trouver de ces mots caressants et attendris qu'ont les femmes avec l'homme qu'elles viennent de tromper, de ces mots réchauffants qui fixent la confiance dans les cœurs. L'évêque goûta quelques instants de joie véritable, et quand l'abbé fut parti, il se dit, le visage rasséréné, « Un peu vif parfois, un peu diable, eh mon Dieu, oh mais le fond est bon !» Jules déposa dans un tiroir de son secrétaire les deux louis dérobés et, jetant un coup d'œil mélancolique sur les trois malles qui contenaient, transformés en volume, toutes ses économies, toutes ses privations, toutes ses turpitudes, tous ses mensonges de plusieurs mois, il soupira. Deux louis, oh, quelle pitié! Ce n'est pas encore avec ça que je me paierai les bollandistes. Le lendemain, au réveil, il eut une idée qui lui parut admirable. Il se leva, prit à peine le temps de s'habiller, descendit à la chapelle, dépêcha sa messe en toute hâte et sortit. L'air était froid, la pluie tombait fine et drue. Un vent aigre chassait dans le ciel de gros nuages sales et comme lavés d'encre. Mais il ne sentait ni le froid, ni la pluie, ni le vent. « Cette fois-ci, se disait-il tout en marchant d'un pas allongé, rapide, cette fois-ci je tiens ma bibliothèque. Oh, je la tiens ou le diable m'emporte. Mais comment se fait-il que je n'ai pas songé à cela plus tôt ?» Une heure après, soufflant, trempé de sueur et de pluie, il arrivait devant l'entrée de l'abbaye du Raynaud. Deux énormes piliers, découronnés, sans grille ni porte, s'ouvraient à vide sur une ancienne avenue défoncée, embroussaillée, veuve de ces arbres depuis longtemps abattus. À l'extrémité de l'avenue, dont on ne retrouvait le tracé au milieu de terrains incultes, qu'il abordait que par la double rangée parallèle des troncs coupés, presque au ras du sol, s'apercevaient d'étranges bâtiments sombres, des profils de murs croulants, des toitures effondrées, raidissant sur le ciel morose la carcasse noire des charpentes. Et tout autour de ces ruines, un espace nu, désolé, s'étendait sans un arbre, sans une plante, sans une verdure, autre que la morne verdure des ronces qui poussaient là libres et touffues, dévorant chaque jour davantage ce coin de terre délaissé. Au moment où il s'engageait dans l'avenue, l'abbé croisa une vieille femme qui tenait à la main une sordide écuelle de bois. « Le révérend père Banfil est-il au couvent ?» demanda-t-il. « Oui, dame, monsieur le curé, répondit la vieille, il y est. » Et désignant l'écuelle que marbraient des taches de graisse figées, elle expliqua « Même que je vienne lui porter sa soupe, vous le trouverez auprès de son église en train de rhumer de la pierre. Oh, oh, il a remué, allez, bon sang qu'il a remué. » Devant cette tristesse épandue, ce ciel maussade, cette misère navrante des choses que, dans la fièvre de la route, il n'avait pas encore constatée, l'abbé regretta tout d'un coup d'être venu. Son enthousiasme était tombé. Il ne croyait plus à la réussite de son idée. Mais pourquoi désirait-il une bibliothèque? Est-il même bien sûr de la désirer et de désirer quoi que ce soit? En vérité, il n'en savait rien. N'était-ce point une mystification qu'il se jouait à lui-même? Une de ces farces lugubres comme il en inventait pour tromper l'immense ennui de son existence? et il eut un dégoût de la vilaine action qu'il avait commise la veille, et une crainte de celle qu'il allait commettre tout à l'heure. « Bah, dit-il, voyons toujours. » La pluie redoublait, il voulut hâter le pas, mais il fut contraint de ralentir son allure à cause des ronces qui se glissaient sous sa soutane, s'accrochaient à ses jambes, entravaient sa marche de leurs enlacements de reptiles douloureux et continus. Obligé de trousser sa robe comme une femme, furieux contre lui-même et contre les lianes qui s'obstinaient et manquaient de le jeter par terre à chaque instant, il avançait péniblement. Enfin, bougonnant, jurant, tirant la patte, il parvint à franchir le passage difficile, trouva un sentier qui filait droit entre les touffes de ronces, et bientôt il ne fut plus qu'une tache sombre, au loin pas plus grosse qu'un corbeau rasant les hautes herbes. L'abbaye du Raynaud datait du XIIIe siècle. Elle avait été bâtie par Saint Jean du Matin et Saint Félix de Valois, fondateurs de l'ordre des Trinitaires, autrement dit de la Rédemption, ordre admirable et puissant qui envoyait ses religieux délivrer les chrétiens captifs chez les infidèles. D'abord resserré dans un étroit pourpris composé de jardins potagers, d'un petit bois, de quelques prairies, l'abbaye étendit peu à peu ses possessions, englobant champs et forêts, étangs et villages, tout le pays à perte de vue autour d'elle. Au XVIIe siècle, qui semble, d'après les ruines encore debout, lui avoir le plus laissé son empreinte d'architecture sévère et grandiose, elle possédait, dit-on, 10 000 hectares de forêts, 15 000 hectares de terres arables, sans compter les vastes étangs d'Andenne, de Vaujours, de Culoiseau, célèbres par leurs fabuleuses scarpes et leurs grands moulins qui broyaient le blé récolté à plus de 10 lieues à la ronde. Aussi, des humbles constructions primitives, agrandies, remplacées, monumentalisées de siècle en siècle, il ne restait déjà à cette époque d'autres vestiges qu'une petite fontaine aux sculptures naïves, aujourd'hui à moitié effacée par le temps, à demi rongée par les mousses, et au bord de laquelle la légende veut que soit apparu à Jean de Mata, le cerf sacré, portant entre ses cornes d'or la croix rouge et bleue, signe distinctif de l'ordre. La Révolution vint, qui chassa les moines du Raynaud, s'appropria leurs biens, démolit l'abbaye, commit le crime abominable de jeter bas la chapelle, un des plus purs, un des plus exquis chefs-d'œuvre de la Renaissance, dont il ne subsista que quelques piliers et quelques pans de murs, marquant funèbrement de distance en distance l'emplacement où elle fut élevée. Les religieux laissèrent souffler sur la France la tempête révolutionnaire et impériale, et ils ne rentrèrent qu'en 1817 dans leur couvent du Raynaud, devenu un prodigieux entassement de décombres et réduit au modeste pourpris de la création. Ben, ils commencèrent par déblayer les décombres et réparer tant bien que mal les bâtiments les moins endommagés. Et cela fait, ils ne surent plus que faire. La rédemption, au moins dans l'esprit de l'œuvre, avait perdu sa raison d'être. Il ne s'agissait plus en effet de reprendre les chrétiens aux corsaires barbaresques. Il fallait trouver autre chose. Dépouillés de leurs terres, ils ne pouvaient songer à se transformer en agriculteurs, comme les trappistes. N'ayant pas un personnel spécial de professeurs, ils ne pouvaient se livrer à l'enseignement, comme les jésuites. Deux essais qu'ils firent, le premier d'un orphelinat de jeunes garçons, le second d'une école professionnelle, ne réussirent point. Alors, en 1823, découragés, ils prirent le parti de s'en aller. Ceux-ci émigrant vers les couvents d'Espagne, ceux-là se réfugiant à Rome auprès de leur général. Et l'abbaye, abandonnée, demeura confiée sur sa demande à la garde de l'un d'entre eux, le révérend père Pamphile, qui conservait une foi entêtée dans le retour de l'ordre aux traditions anciennes et qui passait en très bavard et méridional pour un organisateur de première force. Dès qu'il se trouva seul, la première chose que fit le révérend père Pamphile fut de congédier le jardinier, le charretier, l'homme de basse-cour et de vendre les deux chevaux, les quatre vaches et les poules qui restaient. Puis il s'arrangea avec une voisine dont le mari autrefois travaillait à la journée pour le compte du couvent, afin que celle-ci lui apportât, moyennant 6 sous, une bolée de soupe tous les matins, tous les soirs un morceau de pain bis, et que son homme lui servit la messe par-dessus le marché. Après quoi, délivré des soucis du ménage, de la nourriture, de l'administration, il se promena au milieu des ruines muettes, très grave et songeant. Durant 6 mois, de l'aube à la nuit, il déambula ainsi, de plus en plus absorbé, rétrécissant chaque jour le cercle de ses promenades, pour le limiter finalement à l'enceinte de la chapelle détruite. Chose singulière, il ne souffrait pas, lui, si bavard d'ordinaire, du mutisme presque absolu auquel il s'était volontairement condamné, et déjà, sur sa physionomie de moine jovial, passait par instants cette expression d'abrutissement grandiose traversée de folie qu'on voit au masque hagard des vieux solitaires. À vivre sur lui-même et de lui-même, loin de tout contact intellectuel, hanté d'une pensée unique dans cette solitude morte, dans ce silence que seul troublaient les chutes soudaines de murailles et les craquements sourds des poutres ébranlées, il advint qu'un étrange travail de cristallisation s'opéra dans le cerveau du père Pamphile. Après des hésitations, des doutes aussitôt combattus, des objections d'autant plus vite réfutées qu'il était seul à les discuter, le père Pamphile s'était convaincu irrémissiblement qu'il y avait encore des captifs chez les infidèles. L'imagination nourrie des légendes du passé, n'ayant sur le fonctionnement de la vie humaine d'autres notions que celles acquises dans les vieux livres latins, célébrant l'histoire miraculeuse de son ordre, il croyait que les captifs étaient un nécessaire et permanent produit de la nature et qu'il y a des captifs comme il y a des arbres, du blé, des oiseaux. Et non seulement il y a des captifs, se disait-il tout haut, pour donner à cette conviction une autorité définitive, mais il y en a 10 fois plus depuis que nous avons cessé de les racheter, cela saute aux yeux. Et nos supérieurs ne voient pas cela. Mais quel aveuglement! Alors, se développa en lui l'extravagante idée qu'il avait une mission à remplir, mission inévitable et glorieuse, reconstituer l'ordre des trinitaires, tel que l'avaient établi ses saints fondateurs, Jean de Matha et Félix de Valois. Et je le reconstituerai, s'écriait-il, avec une foi ardente de prophète, en décrivant de son bras étendu un geste qui embrassait le monde. Mais, par une complication de sa nature superstitieuse qui ramenait toute chose à la volonté de Dieu, il était persuadé que le Très-Haut ne lui prêterait sa force d'accomplir ce grand œuvre que s'il relevait auparavant, dans sa magnificence ancienne, la chapelle abattue par l'impie. Il résuma donc la situation par ces mots. « La chapelle d'abord, l'ordre ensuite. Allons, c'est bien. » Quand il eut examiné les moyens pratiques à employer, le père Pamphile se trouva d'abord très décontenancé. Il eut un moment de stupeur, de désespoir. Dans ses méditations acharnées, Jamais il n'avait songé aux difficultés matérielles d'une pareille entreprise. S'imaginait-il donc que les églises se bâtissent toutes seules et qu'il ne faut qu'un peu de foi pour que, des profondeurs du sol, elles montent dans le soleil et vibrantes du chant des orgues? Hélas, il ne s'imaginait rien, le pauvre brave homme. Il revoyait cette chapelle aimée où chaque pierre disait le souvenir des ancêtres, les héros, les saints, les martyrs. Il la revoyait telle qu'elle était décrite, reproduite en toutes ses parties dans un très vieux livre qu'il avait appris par cœur et qu'il relisait tous les jours. Il la revoyait avec la pureté de ses lignes, la fierté de ses flèches, la beauté de son portail qui contenait, sculpté sur le granit, l'histoire immortelle de la rédemption. Il marchait sous ses voûtes sonores, entre ses hauts piliers qui profilaient le merveilleux poème des frises et des architraves. Il s'agenouillait sur ses dalles de marbre polychrome, extasié par l'angélique pâleur des fresques et l'or flambant de l'autel, et le prisme irradiant des vitraux, et il ne se demandait pas ce que cela, qui lui semblait si beau, si simple à regarder, représentait aujourd'hui d'art perdu, de lutte impossible et de millions introuvés. Le premier moment de surprise passé, le père Pamphile se mit à l'œuvre avec cette confiance aveugle que donne à tous la poursuite du mélancolique idéal. D'abord, il vendit tout ce qui était susceptible d'être vendu, depuis les démolitions qui encombraient les cours jusqu'aux ornements de la petite chapelle que les pères, à leur rentrée, avaient improvisée dans un ancien réfectoire. Qu'avait-il besoin d'une chapelle pour lui seul? Il irait bien célébrer la messe à la paroisse voisine. Alors il vendit le mobilier, ne gardant qu'une couchette en planche pour dormir, une table, une chaise, quelques livres de piété, un crucifix et une image coloriée, portrait de Saint Jean de Matha. Dans sa rage de vendre, il vendit les vieux gonds des portes charretières qu'il descella lui-même, les vieilles ferrures, les vieilles plaques de cheminée, les outils de jardinage, les tuyaux crevés des gouttières. Il vendit tout. Chaque fois qu'il découvrait un bout de fer, un morceau de cuivre, il exultait clamant « Je la bâtirai !» Et de même qu'il avait tout vendu, il abattit tout. Il abattit les arbres de l'avenue, énormes chênes qui avaient abrité de leur ombre vénérable 20 générations de religieux, ses aînés. Il abattit le petit bois de sapin et de marronnier qui faisait au couvent comme un rempart de verdure et où les allées, les troncs, chaque mousse évoquaient un souvenir fidèle. Il abattit la charmille au fond de laquelle était un calvaire dont les marches usées montraient l'empreinte des genoux de ceux-là qui étaient venus prier. Il abattit les arbres fruitiers du jardin, il abattit les cyprès, gardiens des tombes du cimetière. Et, tête nue, parmi les bûcherons, sa robe blanche troussée jusqu'aux reins, il les excitait au travail, et il enfonçait à toute volée la lourde cognée au cœur rouge des vieux arbres, ahannant d'une voix sauvage, « Je la bâtirai !» Du haut d'une tourelle qui dominait le couvent, il voulut s'offrir l'immense et douloureuse joie de contempler le spectacle de cette destruction. Tout autour, les arbres gisaient pêle-mêle, affreusement mutilés, les uns couchés, tordus et saignant par de larges blessures, les autres, les troncs en l'air, râlant, appuyés sur leurs branches écrasées comme sur des moignons. Un seul restait debout à l'entrée du jardin, un cerisier chétif, mangé de gomme, étonné d'être si seul sur cette terre, veuve de ses hardis nourrissons et toute rase. Chassés de leurs abris, les oiseaux volaient dans le ciel, effarés, poussant des plaintes. Mais le père Pamphile ne regardait déjà plus ce champ de bataille où se bourraient les géants tombés. Il voyait son église sortir peu à peu de toutes ses ruines, de tous ses morts, prendre une forme, monter, monter toujours, balancée sur les épaules d'une armée d'ouvriers. Il se voyait aussi, s'accrochant au flanc de la nouvelle basilique, grimper de pierre en pierre et planter au sommet de la flèche la croix d'or reconquise et triomphante. De ces arbres, il fit deux parts, l'une qu'il vendit, l'autre qu'il garda en vue des constructions prochaines, et lorsqu'il n'eut plus rien à vendre et plus rien à abattre, il se rendit chez l'architecte diocésain. Solennellement, il déroula le plan de la chapelle, expliqua une à une les gravures du livre, parla longtemps, s'embrouilla en d'incompréhensibles histoires. « Voilà ce que je veux refaire, dit-il, tout ça, vous comprenez? Et combien croyez-vous que cela coûtera dans l'ensemble ?»«
Oh, je ne sais pas, répondit l'architecte ahuri. Comment voulez-vous que je sache ?»«
À peu près, voyons, à quelque chose près. »
Je ne sais pas, moi, 3, 4, 5 millions, cela dépend.
5 millions, fit le moine en se levant. C'est bien, je les trouverai. Et le père Pamphile s'en alla quêter. Il alla de village en village, de ferme en ferme, de château en château, de porte en porte, tendant la main, courbant le dos, mangeant sur les routes le pain de 2 sous auquel il avait réduit sa nourriture. Et le soir, lorsqu'il était trop éloigné du Raynaud, demandant asile au presbytère qu'il accueillait parfois avec méfiance. Il alla sous les soleils affolants, par les froids meurtriers, sans s'arrêter jamais, sans jamais se reposer, précédé de la lumineuse image qui semblait le conduire et le protéger. Mal reçu ici, insulté là, poursuivi dans les rues par les gamins qui se moquaient de sa barbe sale, de sa robe blanche rapiécée de morceaux noirs, de sa douillette noire rapiécée de morceaux blancs, il connut toutes les amertumes, subit toutes les hontes de ce triste état de mendiant. Et s'il souffrit, il ne se rebuta pas. D'abord gauche et timide, il ne tarda point à s'enhardir, et bientôt, avec une facilité qui étonnera chez une âme si loyale, si naïve, si complètement ignorante des malpropretés de la vie, il s'assimila les ruses du métier, au point que pas une de ces 1000 roueries, qui ne sont au fond que des abus de confiance déguisés, ne lui demeura étrangère. Il sut comment il faut faire pour spéculer sur la vanité et les mauvaises passions des hommes. Et il ne recula point devant les boniments de comédiens, les mensonges, les complaisances louches, les espionnages policiers, les mises en scène savantes. Au début, c'était sévèrement reproché ses écarts de conscience, où s'oubliait sa dignité d'homme et son caractère de prêtre. Il finit par les excuser, à cause de la grandeur du but, et même, il y puisa un redoublement d'ardeur. Quelquefois, après les mauvaises journées, devant les recettes maigres, d'obscures révoltes grondaient en lui, mêlant à ses pensées confuses le ressouvenir des histoires de pirates dont sa mémoire de trinitaire était remplie, il se surprenait à rêver de hardis coups de main, de vols grandioses, de bandes armées à la tête desquelles il rançonnerait des peuples. En peu d'années, le père Pamphile devint un mendiant accompli. Sous l'ivresse du sacrifice, sous l'irresponsabilité de la folie, ses scrupules s'effacèrent de plus en plus, son sens moral s'abolit. Soit habitude, soit esprit de renoncement, il se cuirassa contre les outrages, accepta les mauvais traitements comme une des nécessités de sa condition. et il eut le dos servile, l'échine craintive, l'œil oblique, la main molle, douteuse et crochue des virtuoses de la mendicité. Pour raconter sur lui de sales aventures dont se gaussait le populaire. Mais les âmes clairvoyantes auraient pu facilement y deviner un héroïsme supérieur dans sa dégradante sublimité aux conventions de fausses vertus, de faux courage, de faux honneurs avec lesquelles se fabrique le carton des fiertés humaines. Une matinée, le père Pamphile passait devant la propriété d'un ancien boucher, terroriste farouche, devenu riche par l'acquisition de nombreux biens nationaux. Ivrogne, grossier, dur aux pauvres gens, le sieur Le Breton, ainsi se nommait le personnage, se faisait surtout remarquer par son impiété cynique et sa haine enragée des prêtres. Dans le pays, on le détestait et on le craignait. Le père Pamphile n'ignorait aucun de ces détails. Il en avait vu d'autres, plus terribles que ce Le Breton, qui s'était adouci à sa parole. Il avait même observé que les plus féroces en apparence se montraient souvent, soit par orgueil, soit par boutade, les plus généreux. Au risque d'un refus injurieux, ce qui ne comptait déjà plus pour lui, il franchit la grille et se présenta au château. « Qu'est-ce qui m'a foutu un sale câble comme ça ?» s'écria le Breton. « Eh bien, vous avez du tout peine de venir traîner vos sales pieds chez moi. Qu'est-ce que vous voulez ?» Le pauvre moine s'humiliait, effaçant ses épaules, presque suppliant. « Bon monsieur le Breton, balbutia-t-il, je... » Oh, il fut aussitôt interrompu par un juron. « Eh, pas de si malgré, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est de l'argent que vous voulez, de l'argent, hein, sale mendiant? Attends, je vais t'en foutre, moi, de l'argent. » Le misérable allait le pousser à la porte quand, se ravisant à l'idée de se divertir aux dépens du moine, il reprit d'un ton goguenard. « Écoute, mon vieux carme, je veux bien t'en donner de l'argent. » Mais à une condition, c'est que tu viendras le prendre là où je le mettrai. Et je parie que tu n'y viendras pas. Je parie que si, fit le père Pamphile d'une voix ferme et grave. Eh bien, brat, hein, nous allons voir ça. D'abord, fais-moi le plaisir d'aller au fond de la salle. Bon, mets-toi à quatre pattes, comme un chien, ton sale museau en face de cette fenêtre. Et attends. Tandis que le religieux obéissait tristement, le Breton se dirigea vers la fenêtre, mettant toute la longueur de la salle entre sa victime et lui. Il retira de sa poche une poignée d'or qu'il déposa sur le plancher, fit tomber sa culotte, s'agenouilla et, troussant sa chemise d'un geste ignoble, « Je parie que tu viendras pas, grand lâche » cria-t-il. Le père Pamphile avait pâli, le cou tendu, le dos arqué, les yeux stupides, en arrêt sur cette offensante chair étalée, il hésitait. Pourtant, d'une voix redevenue tremblante, d'une voix où passait le gémissement d'un sanglot, il répondit « Je parie que si !» Alors le Breton ricana, prit une pièce de 20 francs, l'inséra dans la fente de ses fesses rapprochées. « Eh ben viens, dis donc, dit-il. Eh, tu sais, pas avec les mains, avec les dents, nom de Dieu !» Le père Pamphile s'ébranla, mais tout son corps frissonnait. Une faiblesse ployait ses jarrets, amollissait ses bras. Il avançait lentement avec des balancements d'ours. « Alors, viens-tu ? » grommela le Breton qui s'impatientait. « Je m'enrhume !» Deux fois il tomba et deux fois il se releva. Enfin, il se raidit dans un dernier effort, colla sa face contre le derrière de l'homme et, fouillant de son nez les fesses qui se contractaient, il happa la pièce d'un coup de dent. « Bougre de saligaud !» hurla le breton, qui se retourna et vit l'or briller sur les lèvres du moine. « Eh bien, bâtard, il faut que tout y passe. Il faut que j'en claque ou que t'en claque. Alors, à ta place !» 10 fois, le père Pamphile subit ce hideux supplice. Ce fut l'ancien boucher qui, le premier, y mit un terme. Il se releva à la figure très rouge, grognant. « Ah, voilà, c'est. Mais il m'avalerait tout mon argent, ce salaud de Carmela. » Malgré la colère où il était d'avoir perdu 10 beaux louis d'or, il ne put maîtriser son admiration, et il tapa sur le ventre du moine. « T'es un rude saligaud, » conclut-il. « C'est égal, t'es un bougre tout de même. Oh, nous allons trinquer !» Le père Pamphile refusa d'un geste doux, salua et sortit. À 1 kilomètre de là, sur la route, était un calvaire. Il s'agenouilla, pria avec ferveur. Puis il continua son chemin, les yeux levés au ciel, des yeux ivres, qui semblait poursuivre parmi les nuées une souriante et radieuse image, et d'une voix raffermie par la foi. « Je la bâtirai !» dit-il. À la suite de ses tournées, il rentrait au couvent, où il avait toujours à constater de nouveaux dégâts. Pendant son absence, un toit s'était encore affaissé. Des lézardes fraîches se dessinaient sur les grosses maçonneries, des figures d'arbres bizarres. Les lambourdes des planchers fléchissaient, et les ronces et les orties et le chien-dent, à l'étroit dans les cours, gagnaient les ouvertures, bouchaient les portes d'un hérissement de halliers. Le vent qui charrie les semences égarées fécondait les pierres, et toute une végétation arborescente hissait des murs, s'échevelait en touffes folles, élargissant les crevasses qui craquaient sous la poussée impétueuse de la sève. Chassé de pièce en pièce, de bâtiment en bâtiment, par la menace d'un plafond crevé ou d'une cloison prête à s'ébouler sur lui, le père Pamphile s'était réfugié au premier étage d'un petit pavillon auquel il ne pouvait atteindre qu'au moyen d'une échelle, car le rez-de-chaussée qui servait de hangar manquait d'escalier. Il avait transporté là sa couchette en planche, sa table, sa chaise, son crucifix et le portrait de saint Jean de Mata. C'est là qu'il continuait de manger sa bolée de soupe, une ignoble et puante lavure de cretonne dont les chiens n'eussent point voulu. Là aussi, la bise s'engouffrait par les fenêtres sans vitres, la pluie s'égouttait par le toit troué comme un tamis. Mais les murs étaient solides et cela suffisait. D'ailleurs, le prêtre ne prêtait à ces choses qu'une médiocre attention, absorbé qu'il était de plus en plus par l'idée fixe « son église ». Son église. Durant ses haltes couvents entre deux quêtes, il dépensait une activité extraordinaire et ruineuse autour de la chapelle, dont l'emplacement envahi par les hautes herbes ne se voyait même plus. Avant qu'il songeât à donner le premier coup de pioche dans les fondations, il achetait de la pierre de taille, de la chaux, du ciment. Les cours en étaient pleines et prenaient des aspects blanchâtres de chantier. Quand les voitures arrivaient, il se précipitait à la tête des chevaux. « Par ici, par ici! Nous allons décharger ici! Dia! Oh, la belle pierre! Oh, la bonne chaux! Oh, le fameux ciment! Diable !» Et il pesait sur les leviers, remontait les criques, vidait la chaux dans les fosses qu'il avait creusées, remuait les sacs de ciment, criant avec une joie navrante d'enfant « Ça marche, ça marche !» Et il s'adressait au charretier « Ah, mes amis, c'est bien. Vous avez contribué à l'édification de la chapelle. Vous êtes de braves gens. Dieu vous bénira. » Naturellement, de même que le bois avait pourri, les pierres gelèrent, la chaux, délayée par la pluie, coula, le ciment durci dans les sacs. De quelques matériaux intacts, la plupart disparurent, emportés la nuit par des maraudeurs. Mais ces pertes ne ralentissaient pas son courage, ses malheurs ne diminuaient pas sa confiance. Il se contentait de dire gaiement « Ben, nous remplacerons ça !» C'était aussi de longues conférences avec des architectes et des entrepreneurs qui, s'étant rendu compte à la première minute de la folie du père Pamphile et désireux de l'exploiter, lui proposaient les plans les plus baroques, l'excitaient à des dépenses inutiles, s'acharnaient à le voler, à qui mieux mieux. Mettrant, cubant, déroulant de grands papiers jaunis où étaient tracées des figures géométriques, ils allaient entre les blocs de pierre ou bien à travers les ronces, affairés, poudreux et géniaux. D'un geste large, ils ébauchaient en l'air des projets d'architecture babylonienne, faisaient tourner des cathédrales au bout de leurs doigts. Et le père Pamphile, son livre à la main, donnait des explications historiques. « Voyons, messieurs, nous ne créons pas, nous reconstituons, c'est bien différent. Tenez là, était le maître-autel en pierre sculptée. 32 figures, quelle figure, un chef-d'œuvre. Là, le rétable, moins ancien, mais très riche en porphyre, un don de Louis XIV. » Ah, du porphyre, disait l'entrepreneur. Ah, justement, j'en ai un lot qui ferait joliment votre affaire. Et du beau, hein, du beau marché. C'est ça, envoyez-le, je le prends. Et là, les stalles capitulaires, des merveilles en chaîne. Il acceptait tout, retrouvant, lorsqu'il ne mendiait plus, sa candeur inconcevable de bonne dupe. Et puis il repartait. Successivement, il parcourut la France, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, l'Asie mineure. Partout, il s'entourait de relations puissantes, se créait des influences politiques et des protections mondaines qu'il savait exploiter avec la plus surprenante adresse. Un jour, reçu dans le palais d'un cardinal romain qui le chargeait d'une mission secrète, un autre jour, roulant sur un paquebot en compagnie d'une bande de comédiens nomades, avec lesquels il organisait à bord des représentations dont il empochait la recette, ou bien encore, capturé par des brigands qui le forcèrent à les accompagner au sac d'un couvent de religieuses et le renvoyèrent avec sa part de butin gagné, tantôt reîtres, tantôt pitres, tantôt espions, tantôt missionnaires, et toujours mendiant, le père Pamphile, pendant 35 années, incarna le type de l'aventurier romantique, habile à toutes les métamorphoses, prêt à toutes les besognes pourvu qu'elles fussent largement payées. À force de souplesse, d'avilissement, de courage et de folie, il écuma sur les grandes routes de l'Europe, où traîna sa robe, l'invraisemblable somme de 500 000 francs. De ces frottements salissants, de ces successives déchéances, de ces glissades de plus en plus rapides dans la boue des métiers honteux, le moine ne gardait ni un remords, ni un dégoût, ni l'impression d'une souillure quelconque. Il n'en gardait qu'un souvenir chargé en haine féroce, le souvenir d'un capucin rencontré en Espagne et qui quêtait comme lui aux mêmes endroits que lui. À part ce souvenir, qui le faisait s'emporter furieusement contre les capucins et aussi contre tous les ordres mendiants, il parlait de ses plus répugnantes aventures ainsi que d'une chose naturelle avec une inconscience pénible. Et l'on sentait à l'entendre que ce doux homme serait allé jusqu'au crime, comme les prostituées vont à l'amour sans savoir. Dans cette impudente vie de vagabond si bien faite, cependant pour détruire son rêve, il n'avait rien vu, rien compris, rien éprouvé en deçà et au-delà de ce rêve. Un fait s'accomplissait qui dominait tout, un fait supérieur aux conventions humaines, la chapelle. Pour lui, il n'y avait plus ni peuple, ni individu, ni justice, ni devoir, ni rien. Il n'y avait que la chapelle. Le point de départ de sa folie, l'ordre de la rédemption à reconstituer, il n'y songeait plus. Les corsaires, les trinitaires, les captifs, Saint-Jean de Mata, autant d'ombres lointaines qui allaient s'évanouissant. Et la chapelle emplissait la terre, emplissait le ciel. Le ciel était sa voûte, les montagnes ses autels, les forêts ses colonnes, l'océan ses baptistères, le soleil son ostensoir et le vent ses orgues. Pendant le temps qu'il rêvait ainsi sur les routes étrangères, le Renault, abandonné, servait de refuge aux vagabonds sans gîte et aux amoureux, et les chats sauvages, s'y poursuivant de pierre en pierre, s'accouplaient sur les ruines plus mortes sous la pâleur tragique de la lune.